Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM. Souvenir
FM. Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de l'invité du 12-13, votre émission préférée, celle qui met en avant vos acteurs locaux, ceux qui font vivre le territoire. Merci David pour l'animation, on te retrouve tout à l'heure après cette émission, comme tous les jours. Aujourd'hui, nous recevons Aurélie Bourcache-Bernut. Nous, on va parler histoire et généalogie avec Aurélie. Bonjour, comment ça va ?
Bonjour, ça va très bien, merci.
Alors,
vous aussi ?
Très bien.
Bon, parfait.
Bienvenue, on va passer une heure ensemble, on va découvrir notre invité et l'histoire des ouvriers qui sont venus construire Hossegor et Cabreton, hein, parce qu'ils sont venus du centre de la France. Mais d'abord, on va écouter le Flash Info national et international et on se retrouve ensuite pour la première partie de cette émission. Et c'est parti, donc je vous rappelle qu'on est avec Aurélie Bourcache-Bernut et donc elle va nous raconter déjà son histoire la plus récente et puis on va parler aussi de ses ancêtres, hein, une fois n'est pas coutume. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu sur votre trajectoire personnelle, Aurélie ?
Du coup, moi, je suis de formation secrétaire comptable et surtout depuis de quelques années, je suis maman au foyer. Et voilà, j'investis mon temps libre en dehors des enfants dans des associations et voilà, je milite pour plusieurs causes qui me tiennent à cœur, donc l'environnement et là particulièrement le patrimoine bâti et qui m'a amené en fait à faire des recherches sur ma propre histoire familiale. Mmh. Donc voilà, j'en suis rendue là.
Voilà.
À cause de ses passions pour le patrimoine et l'architecture.
Oui, c'est vrai que là, ça, pour avoir discuté avec vous, j'ai bien senti, là, vous étiez mordu, hein, vraiment, là. Mais c'est bien, c'est bien. Et alors, tout a commencé, en fait, par la généalogie. En fait, alors, parlons-en, qu'est-ce qui s'est passé et on va parler aussi un petit peu de la généalogie, hein, on va expliquer un petit peu aux gens les tuyaux.
Tout à fait. Ah ben en fait, c'est, je ne saurais pas l'expliquer. À la naissance de mon dernier fils, donc c'était en 2017, je ne sais pas pourquoi, j'ai une espèce d'obsession pour la quête des origines. Mmh. En fait, je me suis aperçue que mon nom de famille étant Bernut, je trouvais bizarre que nous soyons les seuls en fait, à porter ce nom-là, mais tous issus de la même branche familiale. Mmh. Donc, mais sans savoir d'où ça venait. Et je me suis dit, bon, si on est les seuls, c'est que forcément le nom n'est pas originaire du coin. Mmh. Donc voilà, c'était après j'étais moi du coup landaise du côté de ma grand-mère paternelle qui est née à Seignos et qui voilà. Donc du coup moi la question se posait pas, le lien pour moi avec le territoire, il était là. Mmh. Et bon, j'ai commencé, heureusement il y a les archives départementales qui sont en ligne. Mmh. Donc
oui,
j'ai pu par rapport au nom Bernut. Mmh. Retracer le parcours. Alors par le après j'ai commencé parce que je n'ai connu à la base ni mon arrière-grand-père ni mon grand-père. Mmh. Donc il y a pas, je savais même pas qui ils étaient. Mon grand-père si, je connaissais son nom, son prénom, mais c'est tout. Et c'est quand j'ai vu qu'il était né en fait à Cusion dans l'Indre, je me dis on vient en fait de là-bas. Mmh. Donc j'ai commencé à faire des recherches au niveau des archives paroissiales de l'époque. Et effectivement, je suis remontée à l'Indre et après la Creuse, puisque le berceau de la famille est à Saint-Sébastien dans la Creuse.
Oui.
Donc du coup, de là, j'en ai parlé à un ami, Kevin Lossu, qui est historien de l'art sur Dax,
oui.
Et qui m'a dit, mais est-ce que ton arrière-grand-père, qui est venu sur Hossegor, est-ce qu'il serait pas maçon creusois?
Mmh.
Alors j'ai dit, oula, je ne savais même pas du tout, on ne m'en avait jamais parlé, je ne savais pas ce que c'était.
Mmh.
Il m'a dit, mais si, alors là, je le cite, hein. Il m'a dit, mais si, c'est la plus grande migration d'ouvriers en France qu'on ait jamais connue, ça mériterait d'avoir sa place, d'être reconnu au patrimoine mondial de l'UNESCO, tellement ça a été important.
Mmh.
Alors du coup, j'ai dit, ok, je me suis renseignée. Du coup, de là, j'ai adhéré à l'association des maçons de la Creuse. Mmh. D'ailleurs, je passe un grand bonjour à monsieur et madame Nicou. Et de fil en aiguille, après, j'ai commencé à poser des questions. Et effectivement, alors j'ai retrouvé des ancêtres grâce à l'annuaire des maçons de la Creuse, qui compte aujourd'hui 50 000 fiches. Donc c'est un patrimoine,
oui, c'est important,
c'est
oui.
énorme.
Mmh.
Et donc du coup, De là, j'en ai parlé à ma famille. Et après, là, du coup, alors, on ne m'a jamais rien dit pendant des années. Et là, plus moi, j'amenais la discussion. Mmh. Et en fait, plus on me racontait des choses qui semblaient peut-être pas pertinentes ou pas forcément à dire, je ne sais pas. Et là, mon père me dit, mais si, on a construit énormément de choses sur Cabreton et Hossegor. Bon, je me suis dit, chez nous, on est un peu chauvin. Je me suis dit, bon, peut-être que c'est un peu exagéré.
Un peu embelli, peut-être.
Ouais, voilà. Voilà. Ouais. Et puis du coup, j'ai commencé. Alors, j'ai toujours demandé conseil à Kevin Lossu, qui lui est vraiment historien de l'art et qui a les compétences, et qui m'a dit, il m'a dit quelque chose qui, en fait, qui a fait sens, et je ne me suis même pas posé de questions à ce moment-là. Il m'a dit, mais Aurélie, si vraiment il y a un patrimoine bâti par ta famille, il m'a dit, surtout, n'attends pas d'être à la retraite.
Oui.
Pour faire cet inventaire. Mmh. Il m'a dit, toute cette période que tu couvres, donc c'est des années 30 aux années 70, il m'a dit, dis-toi bien que les trois quarts ne sont pas considérés comme du patrimoine, parce que c'est trop récent, c'est trop contemporain.
Oui, c'est ça,
donc il m'a dit, quasiment rien n'est classé. Donc du coup, il m'a dit, fais ça vite, fais ton inventaire. Alors après, j'ai commencé. Je faisais ça le week-end ou le soir après l'école avec les enfants. J'appelais ça la chasse au trésor. On repartait en fait sur les traces de Pépé Auguste, qui est le maçon creusois, qui est venu à Cabreton. Et j'ai pu trouver des villas déjà par les plaques qui étaient sur les clôtures. Donc du coup, ça me permettait de sourcer, d'identifier la maison. Alors j'ai commencé à les recenser comme ça. Après, je me suis dit, bon, ok, c'est bien, mais si ça se trouve, mais je pense que ça suffit pas pour faire pour attester les choses par rapport à la famille. Donc je suis allée aux archives municipales cette fois-ci. Alors j'étais très très bien reçue à Hossegor, où j'ai pu retrouver, justement, parce que le plus gros du patrimoine est sur Hossegor, et j'ai pu retrouver dans les archives tous les permis de construire qui m'ont permis justement de faire des dossiers pour raconter plus seulement l'histoire de ma famille, mais aussi raconter l'histoire des bâtiments. Et aussi, et c'est là où ça m'a... En fait, c'est super, parce que comme moi, j'ai connu personne, on ne m'a rien raconté, je n'ai pas eu de lien avec ma famille. En fait, à travers les propriétaires, qui à un moment donné de leur histoire ont fait appel à ma famille, j'ai pu du coup connaître ma famille par les récits des descendants des propriétaires. Et du coup, c'était assez émouvant. Et souvent, eux aussi étaient très contents parce qu'en fait, on se retrouvait finalement à se remémorer des histoires familiales d'une époque qu'on n'a peut-être pas forcément connue d'ailleurs. Mais en fait, ça, finalement, ce que moi, je venais rechercher, on me l'a donné, mais... Aussi, j'ai apporté quelque chose à la famille qui, justement, ça leur faisait plaisir de voir qu'en fait...
Ils ne connaissaient pas l'histoire du lieu, ils y étaient, mais ils ne savaient pas forcément quelle était
l'origine. Voilà, c'est ça. Et j'ai eu plein d'histoires comme ça, très touchantes. J'ai des propriétaires qui... Il y en a qui ont pleuré, quoi. C'était émouvant, c'était super. Donc, en fait, j'ai fait un peu une pierre de coup. Le patrimoine bâti, l'inventaire, plus l'histoire familiale et aussi l'histoire humaine qui a derrière, quoi, et l'histoire des familles de l'époque.
Alors, vous avez parlé des archives départementales, on les a reçues ici, c'était très chouette. Et puis, effectivement, là, je le redis aux auditeurs, ça vaut le coup d'y faire un petit tour et de s'amuser à mettre son nom de famille.
Exactement.
Vous allez retrouver des fois, parce que ça peut remonter jusqu'à 1600 et quelques, je ne m'en rappelle plus la date exactement. Donc, on va trouver des fois des références à des ancêtres. On va retrouver en tout cas son nom de famille et c'est vrai que ça peut être vraiment sympa. Et alors, on en a parlé hors antenne avec Corinne, mais il faut préserver tout ça, même vous, chez vous, chers auditeurs, auditrices, vous avez peut-être des choses. Il faut les sauvegarder, les numériser, éventuellement les transmettre ensuite aux archives aussi, parce que voilà, c'est vite fait, un accident, de l'eau, du feu, l'oubli, les rats, que sais-je. Mais enfin voilà, on peut perdre des choses et c'est notre patrimoine. Et donc c'est vrai que c'est bien de transmettre si vous pouvez aux archives départementales, tout ça, parce que vous-même vous y avez trouvé des informations en y allant. Et comme c'est en ligne.
Oui.
D'ailleurs, il y a un travail participatif sur le site des archives départementales. On peut participer à l'indexation de certains.
Oui, on peut apporter des fonds. Voilà. Oui, exactement.
Ouais, parce que c'est vrai que c'est du boulot.
Oui,
de tout indexer, de savoir que dans tel document, il y a des informations. Donc, c'est vrai qu'on peut faire ça de manière participative.
C'est ça. Et justement, vous avez raison d'en parler, parce que c'est exactement ce qui m'a poussé, moi, à devoir faire des recherches, on va dire, matérielles, parce que justement, je n'avais aucune archive familiale. Mmh. Les archives de l'entreprise, ça aurait été plus simple. Hein. Je n'aurais pas été obligée d'aller tout le temps aux archives municipales si j'avais eu toutes les archives de l'entreprise. Donc, comme je n'avais rien du tout... au moins, ça m'a permis de tout retracer. Et c'est vrai qu'heureusement qu'il y a tout. Mais il y a tellement de choses dans les archives départementales. Vous avez les numéros d'écrou pour les prisonniers. Voilà, avez les immatriculations des véhicules. En fait, c'est...
Il y a la guerre, c'est les traces de la guerre aussi. Beaucoup.
Exactement. Les recensements de population. Donc, ça nous permet, quand on fait des recherches, de localiser où était telle personne. Et voilà, c'est vrai que c'est une source d'information vraiment précieuse.
Oui, tout à fait. Alors, on va faire une première petite pause. On va écouter une petite musique qui va faire plaisir à Aurélie et on se retrouve ensuite. Et voilà. Alors, vous allez nous dire qui c'était parce que c'est une chanson que vous connaissez bien, ça.
Oui, c'est la chanson des Maçons de la Creuse.
Voilà, c'est ça.
Qui est une ode, justement, aux maçons creusois. Et effectivement... on va parler un peu du contexte des pourquoi la migration, pourquoi les Creusois.
Voilà, c'est ça, ouais.
Ouais, et c'est vrai qu'en fait, à l'époque, la Creuse était un des départements les plus pauvres de France. Les terres étaient assez morcelées, donc du coup, c'était que des petites fermes familiales. Mmh. Les gens avaient du mal à subsister. Donc du coup, alors pour quelles raisons, on ne sait pas, même avec l'association des maçons de la Creuse, c'est très difficile de savoir le pourquoi du comment, mais c'est vrai que les premières traces des maçons de la Marche, parce qu'avant ça s'appelait la Marche et pas le Limousin, et remontent à la fin du Moyen-Âge. Donc ça a commencé vraiment au XVIe siècle et ils ont beaucoup migré, ils ont été jusqu'à 35 000 maçons migrants. Donc après, il n'y avait pas que des maçons, hein. il y avait des tailleurs de pierre, tous les métiers du bâtiment, en fait, ça comprend les...
C'est vrai que tout ça, c'est très minéral. Il faut dire aussi que c'était une région, les terres étaient pas très favorable à l'agriculture.
Exactement,
et tout.
C'est pour ça c'était pas
vraiment,
fertile.
Vraiment la misère, quoi.
Exactement. Donc du coup, ils ont commencé beaucoup sur les chantiers de Paris avec le baron Haussmann. Et après, ils ont beaucoup aussi œuvré après la Seconde Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, pardon, pour reconstruire. Et après, ça a continué avec la Seconde Guerre mondiale aussi. Mais par contre, voilà, après, ça s'est tari parce que les migrants, en fait, se sont installés, sont restés là où ils étaient.
Oui.
Et c'est pour ça que, du coup, alors on ne se rend peut-être pas bien compte, mais les maçons de la Creuse, c'est La Rochelle, Versailles, le Louvre, les Tuileries, le château de Vaux-le-Vicomte, le quartier du Marais, les canaux, les fortifications, les pavés des rues de Paris. C'est quand même c'est une contribution non négligeable dans l'histoire quand même de France.
Oui.
Et c'est vrai que moi, c'était aussi ma démarche, c'est qu'en fait... Quand je me suis aperçue de tout ce qu'avait construit ma famille sur ce Gorka-Breton, depuis les années 20 d'ailleurs, je me suis dit, en fait, quand j'ai commencé sur Internet à taper mon nom de famille pour essayer d'avoir quelques informations sur toutes ces constructions, en fait, je n'ai rien trouvé, mais absolument rien, le néant. Comme s'ils n'avaient jamais existé, en fait. Et là, je me suis dit, mais c'est quand même bizarre. Et par contre, à contrario, j'ai tapé les noms des architectes avec lesquels ils travaillaient. Alors, eux, oui, il y avait pléthore d'informations. Voilà, mais par contre, jamais rien sur les ouvriers. Et là, je me suis dit, oula, quand même, il y a un défaut d'informations. Je trouvais ça pas très juste, en fait.
Oui.
Et... justement, tout mon travail est venu un peu aussi de ma sensibilité, surtout, est venu un peu de là. C'est qu'un jour, j'ai demandé à mon père, je lui dis, mais papa, comment ça se fait qu'il faisait des bâtiments aussi costauds? Parce qu'il y en a qui ont 100 ans aujourd'hui, ça n'a pas bougé, quoi, il n'y a pas une fissure. Et mon père m'a dit, alors mon père qui est très terre à terre, hein, qui m'a dit, mais en fait, ma fille, c'est normal, c'est parce qu'ils avaient des bons ouvriers. Et c'est là où j'ai vu toute l'importance, en fait, de l'ouvrier. Parce qu'on peut avoir n'importe quel super architecte, si les ouvriers derrière ne suivent pas, eh bien, la bâtisse ne sera pas grandiose.
Bien sûr, ouais.
Donc, et c'est pour ça que j'ai après... Partout mon inventaire. Alors, sur Cabreton, par exemple...
Et oui, voilà, parce qu'on vous avait dit Paris, mais alors, Cabreton, ouais. Qu'est-ce qu'ils ont fait
Cabreton. Alors, y a, par contre, au moment où Alfred Elluer a lancé les grands chantiers de la construction de la station balnéaire d'Hossegor, la station des sports élégants, petit clin d'œil à Eric Gilder, d'ailleurs, de l'Association des Amis du Lac,
oui.
qui a beaucoup travaillé sur Alfred Elluer. Effectivement, il y en a beaucoup qui sont arrivés. Alors, beaucoup d'ouvriers. Mmh. Alors, au début, c'était juste les petits ouvriers, en fait, locaux. Et j'ai quand même retrouvé un monsieur Brélio, qui était né dans la Creuse. Et je l'ai recensé sur Hossegor en 1921. Donc, du coup, j'avais pas du tout prêté attention au début. Je m'étais juste lancée dans un travail de recensement des ouvriers. Mmh. Parce qu'on m'avait dit qu'ils étaient beaucoup. Et Kevin Lossu m'avait dit, je ne sais pas si tu as remarqué, c'est quand même fort de café. Les premiers habitants d'Hossegor... Mmh. Étaient les ouvriers eux-mêmes.
Oui, bien sûr. Ouais.
Effectivement. Donc, ça s'est vérifié par les archives et les recensements de population. Donc, du coup, après, j'ai recensé tous les ouvriers du bâtiment de l'époque, jusqu'au 1921 à 1936. Effectivement, alors, c'est assez rigolo, parce qu'au début, ils étaient sur Hossegor. Après, au fur et à mesure de l'avancement des constructions... les Parisiens et tous les gens, il y avait beaucoup de Dacquois aussi. C'était pas que du tourisme qui était hors du département. Et ils ont commencé à habiter dans leur maison. Et c'est là où, après, les ouvriers n'avaient plus eu trop de place.
Et voilà.
Ils étaient beaucoup dans les pensions de famille. Mais c'est ça.
C'est le début de la gentrification.
Exactement.
Fait, hein. Ça a commencé là. Hein.
Voilà. Et du coup, je me suis retrouvée vers les années... 1926, le recensement qu'il y a eu après. Et beaucoup, je ne retrouvais plus les ouvriers que j'avais recensés en 21.
Oui.
Ils avaient disparu. Et en fait, non, ils n'étaient pas allés très loin, ils étaient sur Cabreton.
Oui, voilà.
Donc du coup, c'est rigolo parce qu'il y a une migration dans la migration.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Oui.
Ils ont juste passé le canal. Et du coup, c'est là où après, j'ai vu qu'effectivement, ils étaient venus, mais de partout. Alors, j'ai fait carrément une carte de France avec tous les noms, parce que dans les recensements de population, ils mettent la ville où est née la personne. Donc, du coup, par rapport à cette ville de naissance, j'ai pu... faire une cartographie en fait tous ces mouvements de population. Et effectivement, ils sont venus de toute la France et même certains étaient nés carrément dans les colonies. Alors j'ai même donc du coup, c'était vraiment quelque chose de très vaste. Et je pense que, alors peut-être qu'on est peut-être passé un peu à côté de tout ça, ça n'a pas fait non plus trop de remous.
Oui.
Et c'est vrai que je me dis, je me suis aperçue que j'étais moi-même la descendante d'un de ces maçons migrants et que je ne devais certainement pas être la seule, en fait.
Oui. Alors moi ça me fait sourire parce que j'imagine, parce que vous avez bien entendu Aurélie, vous avez compris qu'elle est passionnée. Voilà,
ouais.
Ça, c'est clair. Et alors je vous imagine un petit peu comme dans les séries américaines, qu'il y a l'inspecteur qui veut résoudre le problème, il a tout un mur avec les photos des indices, etc., qui tire des fils, etc. Et je vous imagine un petit peu dans cette démarche-là, parce que c'est de l'enquête, hein, quelque part, hein, de tisser des liens et d'essayer de retrouver des rapports entre telle personne et tel lieu. Hein, voilà, voilà. Vous avez fait ça comment, d'ailleurs ?
Eh bien, justement, comme vous venez de dire, j'ai un gros tableau à la maison pour les enfants. Et en fait, du coup, j'ai fait des recoupements. J'ai posé des personnes, des entreprises. J'ai essayé de dater pour après arriver à me faire en fait un espèce de résumé qui soit clair pour pouvoir en fait situer qui était qui faisait quoi et où où est-ce qu'ils étaient à telle époque.
Et oui, là c'est du cold case, hein, on pourrait appeler ça la série américaine, hein, d'essayer de retrouver des affaires tellement anciennes que les traces sont pas récentes, c'est pas forcément évident. Alors c'est déjà le moment de faire notre deuxième pause, on va écouter un petit peu de musique et le flash d'info locale et on retrouve tout de suite après notre invité. Alors Aurélie, si on parlait un petit peu de ces bâtiments, hein, vraiment qui sont emblématiques des constructions faites par vos ancêtres et leurs amis, parlons-en un petit peu.
Alors justement, ce qu'il faut savoir, c'est que je me suis aperçue en faisant mon inventaire que des villas et bâtiments étaient déjà recensés au patrimoine remarquable, autant pour la ville de Cabreton que la ville d'Hossegor. Donc du coup, effectivement, je vous parlais de bâtiments voilà, qui seront les plus susceptibles d'être identifiés facilement. Alors on a en 1944 la transformation de la villa de Jean Rossio, qui était le jardiniste, paysagiste renommé, qui a fait une partie des jardins d'Arnaga. Donc du coup, voilà, c'est comme architecte Bernard Durand. Après, on a aussi eu, alors ça c'était sympathique, Quartier Bonamour, la pilote de Formule 1, Madame Itier. Alors je me suis aperçue qu'il y avait énormément de personnes connues qui avaient commandé des...
Déjà à l'époque.
Ouais, voilà. Et du coup, alors c'est pareil, la famille avait fait l'annexe de son hôtel-restaurant Le Volant, donc d'où sa passion pour l'automobile. Après, alors ça me tenait aussi à cœur, on change de registre, c'est les logements économiques, les maisons des pêcheurs à Cabreton qui ont été déplacées, puisque les pêcheurs, au fur et à mesure de l'avancée du tourisme, ont été délogés des villas du bord le long du port.
Oui.
Donc du coup, il leur fallait des habitations. Et là, effectivement, j'ai recensé une maison, celle d'Aberbourg, que 10, qui était anciennement à la Villa Hélios sur le port de Cabreton. Donc ça me tenait particulièrement à cœur parce que l'histoire des pêcheurs est intimement liée à celle de la ville de Cabreton. Donc je suis contente qu'on ait contribué à les loger. Après, vous avez aussi la Villa Oika. Alors celle-là, elle est connue. Bon, on n'est pas du tout dans le même registre. C'est la première maison landaise de François Mitterrand.
Et oui.
Voilà, qui a hébergé du coup toutes les histoires de cœur du président.
Il y en a eu.
Avant qu'il ne parte à Latier.
Oui.
Donc, et là, c'est assez rigolo. Je me souviens, j'ai une petite anecdote d'ailleurs à ce sujet, que lors d'un François Mitterrand qui était sur Hossegor, avait un meeting à Biarritz, mais il n'avait pas de chauffeur ni de voiture. Et c'est Robert Bernut, donc du coup le petit frère de mon grand-père, qui avait repris l'entreprise à ce moment-là, qui l'a amené avec sa deux chevaux jusqu'au meeting à Biarritz.
Ah, oui, d'accord.
Donc vous voyez, et ça dit aussi... comment était le tourisme et la villa de villégiature à l'époque. En fait, je me suis aperçue que tous ces gens qui habitaient ces maisons dites de villégiature, en fait, faisaient partie intégrante de la vie locale et souvent côtoyaient autant le boucher que la personne qui était niveau
qui faisait partie des notables.
Exactement, tout ce beau monde se mélangeait en fait.
Et oui, bien sûr. Oui.
Avec dans le même esprit, je pense. Après, là, justement, ça me tient à cœur de parler de l'étage du Café de Paris.
Oui.
Parce qu'il y a eu les 90 ans, justement, du Café de Paris qui ont été fêtés là, le 26. Et là, c'est pareil. Alors, je ne sais pas si vous avez vu des photos du Café de Paris du temps de la Rotonde, sans l'étage. Bon, c'est pas pareil.
Ben non.
Et effectivement, ils ont construit cet étage en 1960. Et là, c'est Jean Devers, l'architecte hossegorien, qui a signé les plans. Donc voilà, là c'est aussi une petite fierté. Alors c'est pareil, forcément le bâtiment est classé au patrimoine de la ville d'Hossegor. Donc voilà, si vous voulez voir une réalisation de la famille Bernut à Hossegor, vous avez les étages du Café de Paris.
Voilà, dit-elle avec beaucoup de fierté.
Oui.
Oui, non mais c'est vrai, c'est bien. Et donc, c'est intéressant de voir cette histoire. Bon, il y a forcément une dimension sociale,
oui.
On en a parlé. Voilà, c'était la région la plus pauvre de France. C'était la région la plus pauvre de France, la Creuse. Donc, même Georges Sand, qui a vécu, avait dit « La Creuse est un pays où la misère est reine. Les habitants y sont réduits à vivre de presque rien. Et leur unique richesse, c'est leur courage. » Pour dire que déjà, à l'époque, c'est vrai que la vie était difficile. Et ces migrations là d'ouvriers, alors moi j'ai fait un petit parallèle avec nos voisins béarnais, je parlais de Mourenx, c'est vraiment une ville champignon qui est apparue en 1957, évidemment suite à la découverte du fameux gisement de lac, par ce qui était Elf Aquitaine et maintenant Total, etc. Et donc il y a énormément d'ouvriers qui sont venus de la France entière, dont l'Algérie, parce qu'à l'époque l'Algérie faisait partie des départements français, et donc voilà, il y a aussi... quelque chose de parallèle entre ce qui s'est passé entre ces deux villes, dans le sens où ce sont des gens qui ont fait beaucoup de kilomètres pour pouvoir travailler. On a eu besoin d'eux. Après, ils ont été mis peut-être un petit peu de côté, évidemment. Mais ils ont laissé une trace durable dans le patrimoine local qu'ils ont contribué à former. Notamment, alors, en revenant sur Segor et Cabreton, le style basque-hollandais, hein, oui. Hein, il existait déjà, mais il a vraiment été démocratisé et illustré en grande partie grâce à eux. Et ils ont transformé durablement le patrimoine landais.
Exactement. Alors justement, c'est là où moi je milite beaucoup pour la préservation justement du basque hollandais, qui est quand même c'est notre identité. Et justement, c'est là qu'on voit autant mon arrière-grand-père qui était creusois, s'est de suite imprégné de cet esprit basque hollandais, puisque j'ai pu retrouver dans les cartes de visite. Alors la première entreprise qu'il a créée, c'était en 1926. Il s'était associé à Monsieur Roglin, alors qui était un militant socialiste. Mmh. Et là, c'est pareil. Je vais vous lire l'intitulé Entreprise Générale de Construction Moderne, la Villa Basque-Hollandaise. Mmh. Donc en fait, ça dit tout aussi de l'importance de ce style néo-régionaliste qui a vraiment été dont se sont imprégnés tous les constructeurs de l'époque, y compris ceux qui n'étaient pas originaires du territoire.
Oui, c'est ça, oui.
Donc du coup, c'est là qu'on voit à quel point c'était quand même quelque chose d'important, et du coup le fait de devoir aujourd'hui le préserver, parce que on voit que aujourd'hui vous allez sur la côte landaise, toutes les constructions ne sont pas du style basque-hollandais, quoi. Donc ça se perd même. Donc c'est pour ça que je voulais aussi parler de ce style architectural et dire qu'effectivement ça a été il y a énormément de bâtiments qui ont ce style, jusqu'aux années 50, et je pense qu'il convient de le préserver.
Oui, alors c'est vrai que si on fait le tour du lac, donc là on va voir des tas de maisons avec ce style-là, et c'est vrai que c'est, on sent qu'on reconnaît le lieu, vraiment, visuellement, on identifie notamment, je ne vais pas donner de marque, vous savez, les fameuses affiches qu'on peut retrouver, les illustrations avec le nom des villes, à Segor, Biarritz, etc. Au premier coup d'œil, on sait de suite où on est, parce qu'on identifie un peu ces arcades arrondies, tout ce style architectural particulier, c'est vraiment devenu l'identité de ce temps endroit-là, de partout.
C'est ça. Et comme il n'y a que chez nous qu'on le trouve, donc c'est d'où l'importance vraiment de préserver ce style. Et souvent, c'est ce que je dis, vous avez raison, c'est quand on est en Pays Basque, par exemple, alors on peut se perdre dans le Pays Basque, mais par contre, rien qu'à l'architecture, on sait qu'on est en Pays Basque.
Oui, oui.
Voilà. Et c'est vrai que...
Oui. Les couleurs.
Exactement.
Ouais. Et la police de caractère. Je dis ça parce que Aurélie m'a montré tout à l'heure des photos de plaques. Parce que des fois, c'était signé, les bâtiments. Des fois, on peut retrouver dans des vieux bâtiments, quelque part, l'ouvrier a caché. Même ne serait-ce que la chape de la maison, avant qu'elle soit sèche, il met sa signature avec la date. Ça se fait toujours. Et effectivement, quand on voit les plaques et quand on pense à Segor, si vous fermez les yeux, vous voyez le texte, vous voyez la police de caractère avec ces deux S qui ressemblent aux deux S allemand, SZ, etc. Voilà, donc pareil pour les Basques, il y a une police de caractère typique et dès le premier coup d'œil, on sait où on est.
C'est ça, exactement.
Alors ces plaques, vous avez en photo et vous disiez, ça fait partie aussi du patrimoine, ces plaques-là, parce que c'est de l'histoire, et puis il y a le nom des gens qui ont fabriqué, ou qui les architectes, peut-être qu'on mettait plus souvent le nom de l'architecte que de l'ouvrier.
Oui, alors normalement, c'était surtout l'architecte. Après, quand c'est ma famille qui a fait le plan et la construction, ils mettaient leur plaque à eux. Par contre, quand ils faisaient la construction en faisant appel à un architecte, il y avait les deux, souvent. La plaque de l'architecte et la plaque de l'entreprise. Et après, par contre, il y a un moment donné où les architectes n'ont pas été très contents, parce qu'ils estimaient, je pense, qu'il n'y avait que, comme ils étaient diplômés, qu'ils avaient le droit d'apposer leur plaque. Du coup, on s'est retrouvés avec beaucoup de constructeurs qui ne mettaient plus leur plaque. Et là, c'est d'où mon problème après à moi pour identifier, authentifier les villas. Mais bon, après, et c'est là aussi où ça a été très compliqué pour mon travail par rapport aux constructeurs, c'est que même en allant aux archives municipales, souvent, quand c'était un architecte qui faisait, qui était maître d'œuvre, il remplissait le permis de construire, mais il ne mettait pas le constructeur les trois quarts du temps.
D'accord.
Donc du coup, c'était très compliqué pour moi de trouver une trace de l'entreprise de construction. Donc voilà, il y a des fois, je pense qu'il y en a où je suis passée à côté, parce que l'architecte n'a mentionné nulle part le constructeur.
Bien sûr.
Et c'est pour ça que c'était assez compliqué, parce que c'était vraiment un travail de fourmi. Alors par contre, si je trouvais dans le dossier le devis, qui était joint par l'architecte.
Oui. Là, il peut y avoir le nom dessus.
Et voilà, et qui avait le nom de l'entrepreneur. Là, c'était bon, ça me permettait de sourcer. Mais il y en a beaucoup comme ça où je n'ai pas pu, parce que justement, j'avais pas retrouvé ça.
Oui. Alors, je reviens au début d'émission à votre profil personnel. Est-ce que vous avez songé à une reconversion? Enfin, dans le sens où votre passion, toutes les compétences que vous avez acquises, hein, à force, vous êtes peut-être rendu compte que vous aviez un don pour la résolution de ce genre d'énigmes, etc. Est-ce que vous avez un projet professionnel, par exemple? Bon, vous êtes maman au foyer, ça c'est un travail qui ne s'arrête jamais.
Exactement.
Mais est-ce que vous avez un projet personnel de reconversion en disant, tiens, je vais devenir ou salarié d'une association ou travailler dans les archives, hein, voilà. Est-ce que vous avez une idée, une envie personnelle?
Ben là, sincèrement, j'y ai pas trop réfléchi. J'essaie de... Voilà, j'avance pas à pas parce que je me dis aussi, je suis pas, contrairement à mes amis qui ont les diplômes, moi, je n'ai aucun diplôme là-dedans. Je suis vraiment autodidacte et je suis vraiment guidée par la passion.
Oui, ben c'est ça, ouais.
Donc, du coup, je me sens pas forcément trop légitime à demander quoi que ce soit. Mais par contre, je suis en train de rédiger un livre.
Voilà, ça, c'est bien.
Voilà.
Là, c'est bien, ouais.
Mais par contre, c'est pareil, il faut beaucoup de documentation, c'est compliqué parce qu'il faut toujours s'arrêter, reprendre.
Il faut sourcer.
Voilà.
Forcément, il faut faire attention aux droits aussi.
Exactement. Donc, c'est très compliqué. Oui. Puis, avec la vie de famille, voilà, il faut. Je ne peux pas passer de 3 jours complets sur un sujet. Donc, voilà, je fais ce que je peux. Mais oui, effectivement, voilà, si je peux, ça sera avec plaisir.
Et très bien. Et on va faire une dernière pause. On va écouter une petite musique et on se retrouve ensuite pour la dernière partie de cette émission. C'était notre Francis National avec les murs de poussière, mais bon, ceux de vos ancêtres, c'était pas de poussière, puisqu'ils sont encore là.
Exactement.
Alors, il y a de l'actualité aussi, on va pouvoir, les auditeurs vont avoir envie de vous rencontrer, et donc, où est-ce qu'ils vont pouvoir vous voir, qu'est-ce qui va se passer?
Ah, alors déjà, il y a une visite guidée qui est prévue à Hossegor, le 20 août, de 10h à midi. Alors là, c'est Kevin Lossu qui m'a invité pour justement faire une visite guidée... sur les traces des bâtisseurs. Donc du coup on pourra parler aussi de mon travail et on fera en binôme une visite guidée directement sur le terrain, ce qui s'est jamais fait d'ailleurs. Donc voilà, moi c'est une grande première pour moi.
Ça va être chouette
Oui, je suis très contente
d'être en contexte avec les lieux et dire aux gens, de pouvoir dire voilà, ça c'est chouette, ça.
Voilà, comme ça Kevin pourra parler lui aussi de toute la partie architecturale et des architectes, et moi vraiment je pourrais raconter l'histoire de ma famille et de l'entreprise. Donc c'est très bien, je suis très contente. D'ailleurs, justement, j'en profite. Kevin fait aussi en ce moment des visites guidées à Hossegor, donc il va faire ça tous les jeudis sur différents thèmes. Et après, j'ai aussi le Salon du Livre à Hossegor. Alors là, j'y serai avec l'Association des Amis du Lac. Et il y aura un stand des éditions Lac et Land. Donc, on pourra nous retrouver aussi de vendredi à dimanche, ce week-end, donc, au Salon du Livre à Hossegor.
Très bien. Alors, je voulais dire aussi, là, les maçons, on a parlé de bâtiments, on va dire, plutôt privés, mais ils ont aussi contribué à la construction d'infrastructures publiques, hein, des mairies, des écoles, des salles des fêtes. Et donc, ils ont participé à la modernisation, à l'équipement des territoires. Donc, c'est pour dire qu'ils ont une trace durable et profonde dans le territoire. Ils ont fait beaucoup de choses.
Oui, justement. Et c'est là où je voulais aussi, c'est ce que je voulais faire transparaître dans mon travail, qui est, voilà, pas juste parler de l'architecture, mais vraiment remettre l'église au centre du village, donc l'ouvrier, en fait, au centre de la construction.
Ben
parce
oui,
que c'est
ça.
Vrai que c'est toujours le grand oublié de l'histoire. Et c'est vrai que j'ai été très touchée, d'ailleurs, quand il y a eu ce charpentier qui a eu l'autorisation de se marier à la cathédrale Notre-Dame, parce que justement, je me suis dit, tiens, pour une fois...
C'est que justice.
Ouais, c'était assez symbolique, mais bon, je me dis, bon, c'est tellement rare, mais ça méritait quand même d'être fait, justement, pour rendre hommage à ceux qui... aux vrais bâtisseurs, en
mais
fait.
Oui, c'est ça, ouais. C'est pour ça que je parlais de la dimension sociale, vous y êtes attaché aussi.
Hein, donc, ah oui, beaucoup.
Ouais, c'est ça, ouais, parce que c'est vrai, il y a quelque chose, et ça aussi, je l'ai senti en vous, de l'émotion.
Oui.
Il y a de l'émotion parce que voilà, et c'est la généalogie aussi, hein, le fait de rechercher ses racines. Quand on dit ses racines, c'est vrai parce que c'est un arbre généalogique, hein, avec des branches et des racines. On a parfois tous, à un moment donné dans notre vie, hein, ce besoin de retrouver un lien. Voilà, c'est comme ça. C'est dans la nature humaine, sûrement. On a besoin. Tout le monde ne peut pas le faire, mais il y en a qui peuvent. Mais donc, vous avez réussi à lier cette quête personnelle avec quelque chose d'ancré sur le territoire.
C'est ça. Voilà. Et pas que matériel. Il y a aussi, pour moi, je pense qu'en ce qui me concerne, l'héritage, il est surtout immatériel. Parce que ça m'a quand même transmis, je pense, des valeurs. Comme je me suis aperçue, voilà, que toute ma famille, ils étaient tous très engagés au niveau, voilà, au niveau du socialisme. Et c'est vrai, il y en a un qui a fait deux mandats à Cap-Breton. Je ne savais pas. Je l'ai appris quand moi-même, je me suis présentée sur une liste. Donc du coup, je me suis dit, finalement, voilà, je pense que c'est aussi des valeurs et qui nous laissent aussi en héritage, en fait.
Oui, bien sûr. Voilà. Alors voilà, si j'ai l'occasion, je discuterai avec Kevin, hein, parce que moi je me demande aussi, parce qu'on a écouté tout à l'heure, hein, le morceau de musique, mais tous ces gens qui sont venus de là-bas, ils ont amené avec eux des choses et peut-être aussi des comptines, des histoires et des chansons, et peut-être que ça aussi, ça se retrouve un petit peu dans le patrimoine local. Alors je sais pas s'il y a une étude qui a été faite sur ça, mais ce serait très intéressant de voir qu'est-ce qui nous a amené en immatériel, hein, vraiment immatériel, de la culture de la Creuse. Ben, je suppose qu'ils ont dû laisser des morceaux d'eux-mêmes derrière eux, j'imagine.
Alors là, je ne sais pas du tout. Mais alors là, par contre, je vais vous raconter une petite anecdote. Moi, ça m'avait fait assez sourire. La première fois que j'ai contacté une Bernute dans la Creuse, alors quand je lui dis, voilà, je m'appelle Aurélie Bernute, je fais des recherches sur la famille. Alors déjà, elle a éclaté de rire. Je lui ai dit, bon. Et en fait, elle m'a dit, mais vous dites Bernute ? Je lui ai dit, oui. Elle me dit, mais non, on dit Bernu.
Ah.
Et je lui dis, ah. Et elle m'a dit, mais comment ça se fait que vous appelez Bernute et pas Bernu? Et en fait, je lui dis, ben, finalement, et je pense que nos anciens se sont tellement bien intégrés. Et alors, comme ma famille de Seignos parlait patois, donc en fait, je pense, comme ici, on prononce toutes les lettres.
Et oui, c'est ça.
En fait, je pense qu'on est les seuls Bernutes sur la planète à s'appeler Bernute.
Et oui, parce que sinon, c'est le Nord. Parce qu'on sait bien qu'au-dessus de la Dourse, c'est le Nord. Hein.
Voilà. Donc en fait, il y a une telle intégration que même le nom, la prononciation du nom de famille a été transformée.
Bien sûr, oui. C'est d'ailleurs très intéressant quand on fait la toponymie, l'étude là, de l'histoire, des mots et des noms et des lieux. Et il y a de l'histoire dedans. Hein. Souvent, quand on trouve un peu les racines gasconnes, anciennes, ben, voilà, on trouve qu'il y a de l'histoire aussi dans les noms des gens et dans les noms des lieux, des métiers aussi. Voilà, c'est passionnant. Eh bien, nous voilà arrivés à la fin de cette émission. Aurélie, je sais qu'on aurait pu durer encore, hein, largement, voilà. Mais c'était vraiment très sympa de vous recevoir.
Oh, merci, c'est gentil.
Merci beaucoup. Et puis, bon, les gens pourront vous retrouver au mois d'août. Je mettrai le lien, si je le retrouve, sur le podcast, pour que les gens puissent venir vous voir et découvrir ce que vous avez à leur raconter.
Très bien, merci beaucoup.
Merci
J'étais ravie de venir.
Ça faisait un grand plaisir. Au revoir.
Merci, au revoir.